Bon, alors ce soir, dans notre étude de l'israélologie, on va examiner ce soir quelques passages qui sont utilisés par les tenants de l'antinominalisme, c'est-à-dire l'opposition à la Torah. Des textes qui semblent effectivement, si on les lit d'une certaine manière, selon une lecture, on pourrait dire, traditionnelle, apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'effectivement la Torah est caduque et par conséquent elle est à mettre de côté. Bon, le premier texte, bon, je n'ai pas pris dans un ordre spécial, hein, mais le premier texte sur lequel on va s'arrêter, c'est 1 Corinthiens 9, versets 19 à 21. Je lis. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la Torah, comme sous la Torah. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la Torah, afin de gagner ceux qui sont sous la Torah. Et avec ceux qui sont sans Torah, comme sans Torah. Et pourtant, je ne suis pas sans la Torah de Dieu, mais sous la Torah de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans Torah. Bon. Ce texte peut être effectivement considéré d'une manière assez négative. Ça pourrait laisser supposer que Paul, en quelque sorte, use de cynisme, de dissimulation. Il joue au caméléon, selon le milieu dans lequel il se trouve. Dans des buts d'un prosélytisme qui ressemblerait à celui que l'on reproche aujourd'hui à un certain nombre de sectes. Bon, en fait, il n'en est rien. Et nous allons voir justement que là, c'est plaqué sur ce texte un certain nombre de pensées qui sont autres. Le problème, nous l'avons vu quand on a affaire à un certain nombre de textes un peu difficiles comme ça, c'est justement de les replacer dans le contexte. Bon. Ici, Paul fait aussi deux nuances. La Torah de Dieu et la Torah du Messie. Il fait cette différence également dans d'autres textes, nous allons le voir dans un instant. Et par conséquent, il semblerait justement qu'il oppose deux Torahs, la Torah de Moïse, qu'il appellerait la Torah de Dieu, mais à ce moment-là. Si c'est la Torah de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle serait caduque finalement? Ce que dit Dieu est juste et bon, etc. Pourquoi donc le mettre de côté? Et puis d'un autre côté, justement, la Torah du Messie. Bon. Là aussi, c'est une. Alors, bon, on dira la Torah du Messie, c'est donc le Nouveau Testament opposé à l'Ancien Testament. Donc. L'Ancien Testament est à mettre de côté et le Nouveau Testament est à conserver. Bon. Et bien évident, quand on lit tout simplement les évangiles, que la pensée de Paul ne peut pas être en aucun cas celle-là. Jésus, dans le Sermon sur la montagne en particulier, se présente comme un législateur. Le second législateur, comme c'est d'ailleurs selon le texte du Deutéronome, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, celui qui ne fera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. Donc, à partir de ce texte, comment dirais-je, la vision messianique juive avait conclu que le Messie, parmi ses fonctions, aurait celle justement d'être un législateur à la manière de Moïse. Mais non pas pour donner une autre Torah que celle de Moïse, mais pour donner un sens véritable, un sens nouveau à la Torah de Moïse. Et quand nous lisons le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, nous nous rendons compte que c'est exactement ce que fait Jésus. Jésus, donc, n'abolit pas la Torah, il le dit explicitement, je ne suis pas venu pour abolir la Torah. Et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour les kayem, si on retraduit en hébreu, on traduit par accomplir, mais c'est-à-dire accomplir dans ce sens de les kayem, c'est donner donc une existence en quelque sorte solide au commandement, hein, et puis en donner la véritable signification, outre le fait de l'accomplir sur le plan pratique, hein, ce qui est aussi évidemment le sens du mot. Mais c'est plus que notre simple mot « accomplir », c'est aussi donner son véritable sens. Donc vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « tu ne tueras pas ». Et alors là, justement, il y a cette traduction qui est souvent mauvaise, mais moi je vous dis, comme si, justement, il y avait là une opposition qui était introduite. Hein? Mais moi je vous dis, ça veut dire laisser de côté le commandement, moi je dis quelque chose de différent de ce qui a été dit. Bon, déjà, une interprétation de ce type-là est tout à fait incohérente avec l'affirmation première de Jésus, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et Jésus ajoute, si on en doutait, celui qui touchera à un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera le plus petit, appelé le plus petit des hommes du royaume de Dieu. Mais celui qui les accomplira et qui enseignera aux hommes comment les accomplir, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Or, justement, si on retraduit en hébreu, ça nous donne non pas une opposition, mais une affirmation. Shamatem, kineimar la skenim. Ach, ki ani omer lachem. Voilà, donc qui, c'est plutôt une conséquence en hébreu. Ki ani. Donc, je vous dis, à partir de ce texte-là, voilà la signification donc, ce serait plutôt donc que mais. Hein, la traduction exacte. Donc, je vous dis. Alors, que celui qui se met en colère contre son frère, etc. Bon, alors, qu'est-ce que Jésus veut dire ? Si on prend justement l'interprétation des antinominalistes forcenés, le commandement « tu ne tueras pas » est aboli. Bon. Ce qui veut dire que c'est très mal de se mettre en colère contre son frère, mais on peut le tuer. C'est ça, finalement, si on conclut. Jésus abolit le commandement et il en donne un autre. Donc, tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre ton frère, mais tu peux le tuer à condition de ne pas être en colère contre lui quand tu le tues. On voit bien que c'est stupide. Jésus n'abolit en aucune manière le commandement « tu ne tueras pas ». Il en donne justement, dans la halakha juive, ce qu'on appelle « mitzvah kalav, mitzvah hamura », le commandement lourd et le commandement léger, ce qu'on traduit dans Matthieu, le petit commandement, un petit commandement, on appelle ça en hébreu « mitzvah kala », un commandement léger. Ça veut dire que outre le commandement, qu'est-ce que c'est le commandement lourd ? C'est « tu ne tueras pas ». Mais, à partir justement du « tu ne tueras pas », on conclut, il y a aussi un commandement léger. Pourquoi ? Parce que à la racine du meurtre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la haine, donc la colère. Donc, ne te laisse pas aller à la colère. Vous trouvez ça dans des sources, par exemple, telles que je ne sais pas si c'est pas la Didaquée ou bien des textes d'Antigone de Socco qui vivait un siècle et demi avant Jésus-Christ à peu près et qui donc dit ceci à peu près, je ne sais plus la citation exacte, mais enfin en gros l'idée, ne te laisse pas gagner par la colère, ne te laisse pas gagner par la haine parce que la colère peut conduire au meurtre. Hein? Donc ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas envahir par la colère. Ça, c'est le commandement léger, ce qu'on appelle. Commandement léger, qui n'est pas directement dans l'Écriture, mais que l'on déduit à partir du commandement lourd, qui est justement « tu ne tueras pas ». Bon. Jésus, ensuite, prend un certain nombre de commandements dans le même sens. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne te parjureras pas, donc tu ne diras pas de faux témoignages. Bon. Et à partir du commandement lourd, ça ne veut pas dire que Jésus dit maintenant c'est aboli, le commandement lourd. Tu peux commettre l'adultère, mais ne regarde pas la femme. Mais parce que tu peux commettre l'adultère. Bien sûr, Jésus n'a jamais voulu dire pareil, une chose pareille. Jésus n'a jamais voulu dire tu peux mentir, mais par contre tu ne dois pas jurer, hein, tu ne dois pas faire de serment. Jésus n'a jamais voulu dire ça, c'est évident. Donc, à partir du commandement lourd, on déduit un commandement léger. Bon. Or, c'est ça la Torah du Messie. La Torah du Messie, c'est l'interprétation de la Torah. Et Paul dit d'une manière explicite, et nous l'avons lu dans ce texte, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sans Torah, parce que je suis sous la Torah du Messie. Et par conséquent, justement, la Torah du Messie, il le dit lui-même, nous l'avons vu dans les Romains la dernière fois, est-ce que nous anéantissons, est-ce que nous annulons la Torah par la foi ? Au contraire, Anachnu nitkayemim, il emploie exactement le même mot que Jésus dans le serment sur la montagne, nous confirmons, nous établissons, nous accomplissons la Torah. Nous en donnons la véritable signification, nous en donnons le véritable sens. Par conséquent, la Torah est elle-même la Torah du Messie. Et elle est aussi la Torah du Saint-Esprit évoquée dans Romains 8, verset 1. On ne va pas le lire, mais vous connaissez le texte. En effet, dit Paul, bon, vous savez, c'est tout toute cette grande discussion, justement, sur laquelle on aura l'occasion de revenir, sur sa situation de pécheur, hein, face au commandement. Bon, je reconnais, c'est la Torah de Dieu. Et c'est très intéressant ce que Paul dit dans Romains 7. La Torah de Dieu et le commandement, il est bon, il est juste, et il est saint, il vient de Dieu, il exprime la parfaite volonté de Dieu. Comment donc le commandement pourrait-il être aboli, puisqu'il exprime la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu ? Seulement, le problème, il n'est pas avec la Torah, il est avec moi. Mais moi, dit Paul, je suis vendu au péché. Ce qui est bon n'habite pas en moi, je le sais bien. Et voilà, dit l'apôtre Paul, et là justement il y a toute une dialectique parfois difficile à comprendre. Quand je rencontre le commandement, j'y trouve plaisir dans mon être intérieur, dans mon être spirituel, parce que cet être spirituel acquiesce à ce commandement. Il reconnaît que ce commandement, il est bon, il est juste, il est saint, et j'ai le désir de le mettre en pratique, de l'accomplir, ce commandement. Et c'est là que intervient le drame. Mais je trouve en moi une autre loi. Ah, une autre loi. Une autre. Qui n'est plus avec, qui n'a rien avec la Torah de Dieu. C'est la loi du péché. La loi du péché, c'est quoi ? C'est la Torah de Dieu ? Non, c'est une autre loi. Il le dit explicitement. Ça veut dire, cette force qui est en moi, et qui fait que je suis vendu au péché, et qui fait que quand je vais vouloir accomplir la loi de Dieu, le commandement de Dieu qui est bon, juste et saint, la loi du péché et de la mort, qui me tient esclave, va m'obliger, contre ma volonté, à accomplir ce que je ne voudrais pas accomplir, ce que je sais parfaitement comme étant contraire à la volonté de Dieu. C'est une loi. Le péché m'impose sa loi. Le péché m'impose sa volonté, c'est ça. La loi du péché, c'est la volonté du péché. Et alors, cette loi du péché, cette volonté du péché, me rend captif, justement. Et je suis captif de la loi du péché et de la mort qui est en moi. Et je trouve ça en moi, dans mon corps, dans mon être charnel, terrestre. Et c'est là, vous savez, le fameux cri de désespoir qui termine tout ce passage. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Alors justement, c'est très important, ce texte. La loi du péché, et Paul l'évoque souvent, il ne faut absolument pas la confondre avec la Torah de Dieu. La loi du péché, c'est la volonté du péché, c'est la nature charnelle. Et justement, Paul dit, le problème avec la Torah, la vraie, celle de Dieu, c'est que la Torah va me faire connaître la volonté de Dieu, mais elle est incapable de me donner la force de vaincre la loi du péché et de la mort qui est en moi. Et là, il n'y a rien à faire. Je suis captif. Je ne peux pas faire le bien que je veux. et je suis amené à faire le mal que je ne voudrais pas faire. Qui me délivrera ? Et donc, il y a justement maintenant une autre réalité qui, justement, va suppléer à cette insuffisance de la Torah. Voyez-vous ce que Paul nous dit ? Ce n'est pas que la Torah est mauvaise. Ça, il faut le souligner très fort. Je ne comprends pas comment, d'ailleurs, en lisant des textes comme cela, on peut conclure de cette manière-là que la Torah est quelque chose de mauvais. Mais elle est insuffisante. Elle est limitée. C'est ça le problème de la Torah. Elle est insuffisante pour amener à la justice. Elle est insuffisante non seulement pour que nous soyons justes devant Dieu, mais elle est insuffisante pour nous donner la force, justement, de vivre selon le commandement de Dieu. Ce qui est mon aspiration, d'ailleurs, dit Paul, dans mon être intérieur. Et là, justement, intervient la Torah du Messie. Jésus est mort et ressuscité, et il a répandu son esprit. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, et là c'est chapitre 8, verset 1, la Torah de l'Esprit de vie m'a affranchi de la Torah du péché et de la mort. Alors là, contresens total, total, total de la plupart des exégètes, le Nouveau Testament m'a affranchi de l'Ancien. Bon, je caricature, mais grosso modo, c'est ça. Et on n'a pas pris garde au contexte. Encore une fois, c'est quoi la loi du péché et de la mort ? C'est la volonté du péché et de la mort qui est en moi. Or, justement, la mort et la résurrection de Jésus, plus ensuite la régénération par l'Esprit qui résulte de la démarche de foi que l'on met dans le sacrifice de Jésus, fait que justement, et Paul l'explique très bien dans la suite du chapitre 8, d'ailleurs on va le relire parce que c'est très important, Romains chapitre 8, voilà, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit, en effet, écoutez ça c'est très important, la loi de l'esprit de vie, ou la Torah de l'esprit de vie en Jésus-Christ, a libéré du péché de la mort, de la loi du péché de la mort, car chose impossible à la Torah, ah, voilà, parce que la chair la rendait sans force. La Torah, donc celle de Moïse, elle ne peut pas me donner la force de vaincre la puissance du péché et de la mort qui est en moi. C'est ça que Paul veut dire. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que justement, la chair la rend sans force. La loi du péché la rend sans force en moi. Donc, Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire, il a mis fin à cette puissance du péché. Et cela, écoutez, ça c'est très important, pour que la justice prescrite par la Torah de Moïse cette fois-ci, soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ah oui, vous, là, il y a un problème énorme pour Paul, quand il écrit ça. C'est qu'ici, il est question de trois Torahs différentes, trois lois différentes. La Torah de Moïse, la loi du péché et de la mort, et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et pour exprimer ces trois choses, il n'a qu'un seul mot, le mot nomos en grec. Parce que le vocabulaire grec dans ce domaine-là est trop limité. Si bien que, si on ne fait pas attention, on ne sait pas à quoi exactement Paul fait allusion. En fait, il y a trois réalités différentes. La puissance, on pourrait dire, de l'Esprit de Dieu répandu en nous quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous donne la force de rompre la puissance du péché et de la mort, la volonté du péché et de la mort. Dans quel but ? Pour que la justice prescrite par la Torah de Moïse soit accomplie en nous. Ce qui veut dire qu'il n'est pas question pour nous de tuer. Il n'est pas question de commettre adultère. Il n'est pas question de dérober. Il n'est pas question de dire des faux témoignages. Au contraire. L'œuvre de Jésus, c'est de nous rendre capables justement de vivre cela. Et non seulement de vivre cela, mais même de ne pas nous mettre en colère, mais même de ne pas convoiter, mais même de ne pas faire de faux serments, ou même de serments du tout, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça le but de l'action du Seigneur. Et là, nous constatons quelque chose de très intéressant. C'est que l'œuvre du Seigneur, ce que Paul ici appelle soit la loi du Messie ou la loi de l'Esprit de vie, elle a le même but que la Torah. La Torah de Moïse, c'est d'amener l'homme à pratiquer la justice. Et le but de l'œuvre du Seigneur, c'est de nous amener à pratiquer la justice. Et la justice prescrite par la Torah. Alors, qu'on me montre en quoi, ici, la Torah est caduque. La Torah de Moïse est caduque. En quoi ? J'avoue que je ne comprends pas. Alors, ce qui est nouveau, ici, quand nous lisons ce texte de Romains, c'est que nous avons une nouvelle approche de la Torah. Le juif, et jusqu'à aujourd'hui c'est son problème, c'est en cela justement que nous sommes en désaccord avec la théologie juive sur ce point. La théologie juive dit ceci, elle minimise la chute. Elle dit, finalement, l'être humain est neutre. Il peut aussi bien faire ce qui est bien que ce qui est mal. Il suffit de le vouloir. Par conséquent, il suffit, quand nous sommes confrontés avec le commandement de la Torah, il suffit de vouloir l'accomplir, et puis voilà, ça se fait comme une lettre à la poste. C'est ça, en gros. Et finalement, l'homme est pécheur quand il pêche. Et s'il a péché, il se repent. Et puis il se met à pratiquer ce qui est juste, par sa simple volonté, par sa volonté. Ben non, nous lui dit Paul, c'est ça le problème, justement. Le problème, dit Paul, c'est que ce qui est bon n'existe pas en moi. C'est que j'ai le vouloir, le bon vouloir de pratiquer le commandement, mais j'en ai pas les moyens, j'en ai pas la force. Et ça, un homme comme Shalom Ben Chorin l'a vécu. Il explique justement son combat intérieur en tant que juif religieux, juif pieux. Il arrive à la même conclusion que Paul, il est en accord avec Paul sur ce point-là. Et il dit d'ailleurs une chose très intéressante. Il dit ceci, seul un juif religieux, un juif pieux, qui de tout son cœur a essayé de mettre en pratique la Torah par sa volonté, peut comprendre vraiment ce que Paul nous dit dans ces textes-là. Et il dit, vous les goyims, les non-juifs, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le combat intérieur de quelqu'un justement qui cherche de tout son cœur à être agréable au Seigneur en pratiquant sa Torah. Et voilà, cet aveu est tout à fait intéressant. Et là, justement, Paul nous dit, ben oui, justement, il faut une nouvelle approche. Le principe pharisien, parce que c'est le principe pharisien, celui-là. Le judaïsme moderne, c'est le pharisaïsme. Le principe pharisien, Paul l'avait employé, et il était arrivé à des conclusions, celles qu'il expose, justement, dans le chapitre 7 des Romains. Et là, justement, la Torah du Messie, c'est quoi ? C'est une nouvelle approche de la Torah. Ce n'est pas une remise en question de celle-ci, c'est une nouvelle approche. Le but est le même. Et Paul dira ça aussi à Timothée. Le but du commandement, de la mitzvah, c'est une bonne conscience venant d'un cœur pur. Voilà. Et là, il nous parle du bon usage de la Torah. Paul fait une différence à Timothée entre le mauvais usage et le bon usage de la Torah. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas tant la Torah que son bon ou son mauvais usage. On peut en faire un mauvais usage, dit l'apôtre Paul, en s'en servant pour des disputes de mots, des généalogies sans fin, des disputes et des discussions qui ne servent, dit-il, qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Alors que, eh bien la Torah, c'est ça. Le but du commandement, c'est une bonne conscience venant d'un cœur pur. Et quand on a cette bonne conscience, ben finalement, on fait spontanément ce qu'exige la Torah, le commandement. Et la Torah et le commandement, il est là pour essentiellement condamner ben justement ceux qui ne la pratiquent pas. Les meurtriers, les parricides, les homosexuels, les débauchés, les cupides, etc. Il cite tout ça dans la première épître, dans les épîtres à Timothée. Voilà. La Torah, elle est là. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'avaient compris les réformateurs. Elle est là pour mettre en évidence le péché et amener l'homme, le pécheur, à chercher, comme l'apôtre Paul, bah, qui me délivrera ? Chercher sa délivrance. Mais le but étant, justement, une bonne conscience venant d'un cœur pur. De telle manière que c'est la bonne conscience venant d'un cœur pur, parce que quand on est mis en contact avec le commandement, notre conscience reste pure, notre conscience n'est pas troublée. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas, on n'a pas violé le commandement, on le vit, tout simplement, hein, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Donc ça, c'est très important. Maintenant, qu'en est-il justement de cette espèce de manière de se faire tout à tous, etc. Bon, qu'est-ce que Paul veut dire par là ? Qu'il se fait un caméléon ? Non, pas du tout. Mais simplement, qu'il ne fait pas de sa judéité un point tel que, eh bien, cet aspect, en quelque sorte, neutralise l'Évangile. Bon. La Torah, elle a différents aspects. Elle a un aspect moral. C'est son aspect, pourrait-on dire, essentiel. Et lorsque Paul traite de cette question dans les chapitres 7 et 8 des Romains, que nous avons examiné succinctement, c'est essentiellement dans la dimension morale, de la dimension morale de la Torah qu'il traite. Mais, quand il parle justement aux Corinthiens, dans le chapitre 8, que nous avons aussi lu tout à l'heure, ce n'est pas tant cet aspect qui l'intéresse, c'est l'aspect rituel. La circoncision, le Shabbat, les fêtes, la cacheroute, etc. Bon. Ça, ce ne sont pas des prescriptions morales. Ce sont des prescriptions qui sont spécifiques justement au caractère juif. Ce sont les aspects spécifiques de la judéité. Bon. Et dans la mesure où le Messie est venu, et où par conséquent maintenant, le salut de Dieu en Jésus-Christ s'applique à tous les hommes. Cet aspect qui était important dans l'ancienne économie, si j'ose dire, pré-messianique, hein, se trouve relativisé par le fait que justement, c'est l'universalité du salut qui prime. De telle sorte que, pour importantes que soient ces prescriptions, et Paul ne dit pas qu'elles ne sont pas importantes, elles ne doivent pas empêcher l'Évangile d'atteindre ceux que le Seigneur appelle. Et, par exemple, et ce sera justement le problème des Galates, entre autres, mais aussi un peu des Colossiens, si on veut, enfin de tout l'aspect ultra-judaïsant auquel Paul va se heurter dans son ministère, n'est-ce pas ? Si, par exemple, on met en exergue la circoncision, bon, essentiellement la circoncision, finalement, parce que c'est là le point central, finalement, de la judéité, ou même, éventuellement, bah oui, tout ce qui en découle, le Shabbat, la cacheroute, etc. Eh bien, ça peut être des obstacles à l'Évangile. pour des gens qui, bon, n'ont pas été habitués à ces choses. Alors, dit Paul, ben, je serai, comme n'étant pas sous la Torah, c'est-à-dire sous cet aspect des choses, parce que justement, ça aussi, c'est une expression hébraïque, être sous la Torah, prendre le joug de la Torah, c'est en quelque sorte être juif, se faire juif. Par exemple, un non-juif qui se convertit au judaïsme, dans une expression technique, c'est il prend le joug de la Torah. Bon. Il prend le joug de la Torah, donc il est sous la Torah. Et Paul dit, bon, ben, il y a ceux qui ne sont pas sous la Torah, c'est les non-juifs. Bon. Mais avec eux, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul, je vais relativiser ma judaïté. Non pas que j'y renonce. Non pas que je m'en détourne, c'est pas le problème. Mais vis-à-vis de ces gens-là, c'est pas l'important. C'est pas l'important. Je vais pas commencer par dire, vous savez, moi je suis juif, moi je suis circoncis, moi je suis comme si, je garde les fêtes, les mitzvot, etc. Non, c'est pas l'important. D'ailleurs, il suffit de voir comment ils se comportent vis-à-vis des non-juifs. Nous avons dans le livre des Actes, par exemple, deux discours, celui aux païens de Lystre et puis celui aux philosophes d'Athènes. Bon. Paul ne met pas en avant, justement, sa judéité dans aucun des deux cas. Ça ne veut pas dire qu'il cesse d'être juif. Ça ne veut pas dire qu'il nie qu'il l'est. Ils le savent bien qu'il est juif, à la limite, les philosophes d'Athènes. Hein? Mais ce n'est pas l'important, ce n'est pas ça qu'il va mettre en avant dans son discours. Par contre, avec les circoncis, avec les gens qui sont sous la Torah, ben il est sous la Torah du Messie n'importe comment, donc il n'est pas sans Torah. Cette Torah, qui est cette Torah de Moïse, il ne l'a pas reniée. Il est concerné par elle. C'est tellement vrai que quand il se trouve à Jérusalem, après son troisième voyage, et que Jacques et lui dit, ben écoute, frère, voilà, pour faire taire les bruits malveillants qui courent sur ton compte, notamment justement sur le fait que tu as renié la Torah, montre que c'est pas vrai. Nous avons ici des hommes qui ont fait un vœu pour voir leurs dépenses et offrent le sacrifice prescrit pour cela. Tout le monde verra que toi aussi tu te comportes en observateur de la Torah. Or, justement, si Paul n'avait pas agi de cette manière-là, il aurait été autant un scandale pour les Juifs qu'il l'aurait été pour les non-Juifs s'il avait mis en avant sa judéité. Donc, ce n'est pas un opportunisme de caméléon, c'est tout simplement une manifestation de compassion, d'amour, de miséricorde vis-à-vis de ceux auxquels il s'adresse. Il prend ceux auxquels il s'adresse là où ils sont, pour les amener finalement à l'essentiel, dans un cas comme dans l'autre, le but étant celui-là, de rendre témoignage de Jésus-Christ. Mais on ne va pas rendre témoignage de Jésus-Christ à un philosophe d'Athènes, ou à un païen assez frustre comme ceux de Lystre, comme on le fera par exemple quand Paul entre dans les synagogues. Et si nous avons ces deux discours à des païens dans le livre des Actes, nous avons aussi d'autres discours à des juifs dans les synagogues. Et là, nous voyons justement que Paul emploie un langage tout à fait différent. Homme, frère, écoutez. Bon, d'abord, c'est le frère. Dieu, le Dieu de nos pères. Ah, tout de suite, il se situe juif. Nos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Et il commence à retracer toute l'histoire d'Israël, la vocation, etc., les prophètes, les promesses de Dieu pour arriver au Messie. Ben, ces promesses de Dieu, elles sont accomplies, voilà. Mais tenir un pareil langage à des païens, il aurait tenu ce langage-là au philosophe d'Athènes. Bon, cela aurait dit, au bout de 10 minutes, écoute, Paul, tu es bien gentil, mais Abraham, Isaac et Jacob, on ne connaît pas. Les prophètes Isaïe, Esaïe et Jérémie et tout, on ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu nous parles du chinois. C'est ça que Paul veut dire. Quand il dit avec ceux qui sont sans loi comme étant sans loi, avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas du tout qu'il a usé de ruse, de dissimulation, de ça n'a rien à voir. Et c'est tout simplement une manière de présenter le message différente. Et là, c'est pas que Paul, justement, renie du tout la Torah. D'ailleurs, il le dit, je ne suis pas sans cette Torah, tant sous la loi du Messie. Alors, bien sûr, on dira, il est sous le Nouveau Testament, pas sous l'Ancien. Mais non, on a vu que c'est stupide. La Torah du Messie, c'est l'explication que Jésus a donnée de la Torah de Moïse. C'est pour ça qu'il s'y retrouve. Dis-moi aussi, je peux offrir un sacrifice dans le temple pour pouvoir aux vœux de ces gens-là, parce que moi aussi je suis concerné par la Torah, étant sous la Torah du Messie. Je ne suis pas sans Torah. Alors ça, c'est un point. Bon, c'est la même chose aussi quand il parle des faibles. Il ensuite dit, je suis faible avec les faibles, fort avec les forts. Est-ce que ça veut dire que là aussi, bon, mais non, il se comporte d'une manière différente selon qu'il a affaire à des faibles. Bon, que c'est les faibles, ben c'est justement ceux qui ont besoin d'être encouragés, etc. Bon, il va faire de cette manière-là. Avec les forts, ben, il va agir différemment. C'est finalement, si vous voulez, le principe de base de tout évangéliste qui a un petit peu de sagesse. C'est le principe qu'on enseigne dans toutes les écoles de mission. C'est la contextualisation de l'évangile, pour reprendre un mot moderne, l'indigénisation de l'évangile, etc. Bon, c'est ce qu'a fait Don Richardson quand il s'est trouvé là-bas avec les coupeurs de tête de Nouvelle-Guinée, et que donc il a utilisé l'image de l'enfant de la paix, enfin vous connaissez toute cette histoire, pour prêcher l'évangile à ces gens-là. C'est ça, c'est uniquement ça, c'est une manière de présenter le message qui est adaptée à ce que les auditeurs sont capables d'en comprendre. C'est essentiellement ça. Bon, alors autre texte, maintenant Galates 3, verset 28. Alors là c'est autre chose. Voilà. Alors là, il faudrait prendre toute l'épître aux Galates, bien sûr, parce que là, mais bon. Voilà. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ, vous êtes au Messie, alors vous êtes les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Bon. Alors ça, c'est évidemment le cheval de bataille de tous ceux qui, justement, bon, on retrouve ce texte d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens également, sous une forme à peu près semblable. Hein. Mais là, n'est-ce pas, qu'est-ce que Paul veut dire? Il faut relire justement aussi dans l'Épître aux Éphésiens, où il le met en relation avec ce qu'il appelle le mur d'inimitié, etc. Bon, qu'est-ce que Paul veut dire dans ce domaine-là? Alors, il y a une chose très intéressante, c'est que Paul dit aussi aux Éphésiens, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, et il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Bon. Alors, il n'y a plus ni juif ni grec. Bon. Tu étais juif, tu crois en Jésus, donc tu n'es plus juif. Terminé. Bon. Tu étais femme, tu crois en Jésus, donc tu deviens un homme. Si, il faut être logique. Tu étais esclave, tu crois en Jésus, donc tu es affranchi. Ah oui, mais le maître non-croyant ne lui va peut-être pas tout à fait être d'accord. Et c'est tellement vrai que justement, aux Corinthiens, Paul s'adresse à des esclaves. Et il dit ceci. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en soucie pas. Parce que l'esclave est un affranchi du Seigneur. Ah. Ça veut dire, oui, tu es libéré de ton esclavage, mais spirituellement. On l'ajoutera, bien sûr, si tu as l'occasion de devenir libre, profites-en plutôt. Mais ce n'est pas un problème. Le fait que tu sois esclave n'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant le Seigneur, face à son salut, tu as la même dignité que l'homme libre. Tu es égal à l'homme libre. Tu n'es en rien diminué par le fait que tu es esclave. C'est ça. Tu as les mêmes droits, tu as les mêmes privilèges que l'homme libre. Et même si tu dois rester, humainement parlant, esclave toute ta vie, ça n'enlève rien à ta vocation, à ton salut, à l'appel que le Seigneur t'a adressé. Tu es un frère, et c'est l'épître à Philémon. Cet homme, Onésime, qui s'est enfui de chez toi, je te le renvoie, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Bon, il se trouve que Philémon est chrétien, donc Paul peut lui suggérer de libérer Onésime, de l'affranchir. Mais c'est très intéressant ce que Paul dit. Finalement, parce que tu es chrétien, tu es capable de comprendre ça. Tu peux comprendre que finalement, cet homme qui a été ton esclave, et que je te renvoie en tant qu'esclave, si tu veux le garder comme esclave, après tout, c'est ton droit. Je ne te l'impose pas. Mais tu serais évidemment malvenu de le faire. Mais à la limite, c'est ton droit. Mais c'est plus ton esclave, c'est ton frère. Alors traite-le comme ton frère. Traite-le comme ton égal. Et tire-en les conséquences. En tant que chrétien que tu es, affranchis-le. C'est ça que Paul lui dit. Mais il ne peut parler comme ça à Philémon que pour une seule raison, que parce que Philémon est chrétien. À un maître qui aurait été païen, Paul n'aurait pas pu dire cela. Et finalement, Onésime serait resté esclave. Mais ce n'était pas le problème. Ce n'était pas un problème. Bon. La femme, dans l'Antiquité, était considérée comme inférieure à l'homme. Vous savez, encore chez les Arabes, la femme n'a pas d'âme. C'est beau l'islam. Hein, c'est un peu difficile à comprendre comment nos modernes progressistes, féministes qu'ils sont, peuvent encenser une religion pareille qui réduit la femme au stade où elle est. Bon. Dans l'Antiquité gréco-romaine, le statut de la femme n'était pas brillant non plus. Alors, il n'y a plus ni homme ni femme. Qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce que la femme va devenir un homme ou il va falloir... Paul, elle est un militant du MLF. Rien à voir. Tu restes femme, comme tu restes homme, si tu es homme. Mais ce statut d'infériorité de la femme que l'Antiquité, donc gréco-romaine, lui attribuait, disparaît dans le Seigneur. Pierre dit ça aussi au mari. Et n'oubliez pas, dit-il, que vos femmes aussi, elles doivent hériter comme vous du salut. Ça veut dire que, nonobstant leur sexe, elles ont la même dignité, elles ont part aux mêmes grâces. Et même si concrètement, leurs fonctions peuvent être différentes dans l'Église. Il y a une égalité de l'homme et de la femme. Enfin, on a beaucoup exagéré la misogynie de Paul. C'était justement Alain Decaux qui dit des choses intéressantes dans ce domaine-là, dans son dernier bouquin. Même s'il dit des bêtises dans d'autres domaines, dans ce domaine-là, il a des réflexions extrêmement pertinentes. Donc c'est ça. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que devant la grâce de Dieu, devant la vocation, devant le salut, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est très relativisé. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme n'enlève rien. Par le fait que tu es femme ou par le fait que tu es esclave, tu n'as rien de moins que quelqu'un qui est libre ou que quelqu'un qui est homme. Même chose. En ce qui concerne le premier terme de la triade, il n'y a plus ni juif ni grec. Pourquoi voulez-vous que si finalement la femme reste femme, l'esclave reste esclave dans la plupart des cas, après avoir cru en Jésus, pourquoi voulez-vous que le juif cesse d'être juif? On est dans une illogisme, dans une démarche totalement illogique. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ben, si vous voulez, là, c'est exactement la même démarche. Il vaut mieux être homme libre qu'esclave dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il vaut mieux être homme que femme. On a plus de droits. Eh bien, finalement, par rapport à la conception juive de l'époque, il vaut mieux être juif que non-juif. Pourquoi ? Ben parce que les non-juifs, dit l'apôtre Paul, vous lisez ça dans Romains, sont étrangers aux alliances, sont étrangers aux patriarches, sont étrangers aux appels de Dieu, n'ont aucun droit de cité en Israël. Les goyims ne peuvent pas entrer, par exemple, dans le temple. Ils doivent se contenter de rester dans le parvis extérieur, sinon ils sont mis à mort. D'où, justement, ce que Paul appelle le mur d'inimitié. Hein, c'est ça. Et on a retrouvé dans les fouilles archéologiques l'inscription qu'il y avait justement à l'entrée du sanctuaire, où cette inscription en trois langues, en hébreu, en grec et en latin, mettait en garde que tout non-juif qui pénétrait dans le sanctuaire, au-delà de cette porte, pouvait être mis à mort sur le champ par les juifs sans recours à l'autorité romaine. Logiquement, le droit, le jus gladi, comme disaient les Romains, c'est-à-dire le droit de mettre à mort, était l'apanage des Romains. Vous savez que même Jésus n'a pas pu être mis à mort sans l'aval, justement, du gouvernement romain. Et il y avait, dans cette loi qui ne souffrait aucun appel, il y avait une seule exception, c'est justement pour le goy, le non-juif, qui entrait dans le sanctuaire. D'ailleurs, c'est ce qui a failli arriver à l'apôtre Paul. Et parce qu'on avait cru que Paul avait introduit dans le sanctuaire un non-juif. Et c'est la raison pour laquelle Paul allait être mis à mort sur le champ sans l'intervention du tribun, qui l'a sauvé in extremis quand il s'est rendu compte que l'accusation n'était pas juste, était erronée. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la prière du matin est très intéressante chez les Juifs. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, de ce que tu ne m'as pas fait naître goy. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi aimé de l'univers, de ce que tu ne m'as pas créé une femme. Ouais, c'est ça, on prie encore comme ça aujourd'hui. Vaut mieux être juif que goy, et vaut mieux être homme que femme. Alors justement, ben oui, si moi je suis goy et que j'ai cru en Jésus, je peux me sentir un petit peu en état d'infériorité vis-à-vis des Juifs. Et me demander, finalement, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille jusqu'au bout et puis que je devienne juif? Je serais peut-être un meilleur chrétien et chrétien à part entière un peu plus, quoi. Pas du tout, dit Paul, mais non. As-tu été appelé circoncis ? Ne t'en soucie pas. As-tu été appelé incirconcis ? Ne te fais pas circoncis. Tu as été circoncis ? Ne cherche pas à faire disparaître ta circoncision. Parce que face à l'appel de Dieu, face à la miséricorde de Dieu, face au sacrifice de Jésus, la circoncision, c'est-à-dire le fait d'être juif, ou l'incirconcision, ça veut dire le fait d'être goy, mais rien. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. Et quand il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il dit tout simplement, juif et non-juif, face au salut de Dieu, sont parfaitement égaux. Parfaitement égaux. Et le goy, pas plus que la femme par rapport à l'homme ou que l'esclave vis-à-vis de l'homme libre, n'a à faire le moindre complexe d'infériorité parce qu'il est goy. C'est tout. C'est ça que Paul veut dire. Alors aujourd'hui, on dit, tu te convertis, tu es juif, tu te convertis. Tu cesses d'être juif. Et c'est la fameuse formule que l'Inquisition faisait signer aux conversos, vous savez, on en a déjà parlé. Je m'engage à cesser de me considérer comme juif, à avoir la moindre relation avec l'hérésie juive. L'hérésie, on n'avait pas peur des mots. Et je reconnais que s'il m'arrivait un jour de retomber dans ces erreurs, de pratiquer le Shabbat, les fêtes juives, la cacheroute, je mériterais les flammes du bûcher. On signait ça. Voilà. On n'en est plus là aujourd'hui, mais l'esprit est resté, c'est le même. Et on s'appuie sur ce texte. Or, justement, c'était le problème des Galates. Les Galates avaient commencé par l'esprit, dit l'apôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient cru en Jésus. Et puis, ils s'étaient sentis, pas de problème, quoi. Ils étaient bien dans leur peau. Et un jour étaient venus des judaïsants qui leur avaient dit, il faut que vous soyez circoncis, et quand même. Et c'est là qu'ils s'étaient dit, si c'est ça, finalement, on n'était peut-être pas tout à fait bien sûr, mais enfin, pour plus de sûreté, au moins comme ça, on sera des meilleurs chrétiens si on est circoncis, si on pratique les lois rituelles juives. Et voyez-vous, toute la bataille de Paul, et ça c'est très important de comprendre, sur cette question de la Torah, et tout se cristallise sur la circoncision. Parce que la circoncision, c'est ça qui fait la judéité jusqu'à aujourd'hui. C'est de dire, on peut être chrétien à part entière, avoir exactement la même dignité que les juifs qui ont cru en Jésus, sans pour autant devenir juif. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le combat essentiel de Paul. Et ça, c'est essentiel, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Paul aurait cédé, Paul ou d'autres, et d'autres l'avaient fait, même Pierre était sur le point de le faire, ils ont ça dans les Galates aussi. Eh bien, c'était fini de l'évangélisation du monde. C'était fini de l'évangélisation des païens. Petit à petit, on serait revenu à l'idée qu'il fallait d'abord devenir juif pour devenir chrétien. Et c'est tout le combat, et c'est tout le débat de la conférence de Jérusalem, acte 15. C'est là, justement, que Paul avait donné son accord à cette idée. Et on peut devenir chrétien sans, au préalable, devenir juif. Et rester chrétien en demeurant donc juif. Voilà. C'était essentiel pour l'évangélisation des païens. C'est ça aussi une certaine manière, se faire tout à tous. C'était aussi cette manière. Et justement, la crise galate, y compris le rôle un peu trouble qu'y avait joué Pierre, tourner autour de cette question essentielle. C'est pourquoi Paul réagit avec la vigueur, l'épître Galate, et l'épître la plus vigoureuse que Paul ait jamais écrite. Et c'était justement parce que c'était là l'enjeu. Et l'antinominalisme de Paul, c'est là. Vouloir imposer la Torah aux païens, c'est quoi? C'est leur imposer la circoncision et les règles juives qui en découlent, c'est ça. C'est contre ça que Paul en a, c'est à cela qu'il s'en prend quand il attaque la Torah. Or, c'était un danger énorme pour les jeunes églises de l'époque de Paul. Parce que toutes ces églises-là, d'abord, quand même dans l'église au sens universel du terme, il y avait quand même une majorité de juifs. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis deuxièmement, parce que la plupart des convertis venus de la gentilité étaient des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui gravitaient autour des synagogues et qui par conséquent vivaient dans cette espèce d'attrait auquel succombent aussi aujourd'hui encore parfois un certain nombre de gens, de non-juifs, qui qui justement font, bon, j'aime pas ce mot, mais enfin, employons-le quand même, font un peu d'israélolâtrie. Hein? Mais bon, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est quand même pas tellement le problème numéro un de la plupart des chrétiens. Je connais pas beaucoup de chrétiens qui ont envie de se faire circoncire. Vous en connaissez, vous, dans les églises, catholiques, protestantes, orthodoxes? Il y en a quelques-uns, c'est rare. Bon. Et c'est pourquoi, finalement, le débat, l'antinominalisme ici, bah, c'est plus tellement directement notre problème, il faut quand même bien le reconnaître. Ça le redevient effectivement, plus ou moins, pour les églises messianiques en Israël, par exemple. Ça, c'est autre chose. Mais pour nous, non. Alors, je crois qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. Être sous la Torah, c'est quelque chose de mauvais pour Paul, c'est évident. Mais être sous la Torah, c'est quoi? C'est tout simplement être justement dans cet état où Paul justement dit aux Éphésiens, on va relire le texte si vous voulez. Voilà, chapitre 2, écoutez, c'est très intéressant. Pour vous, païens, hein, c'est moi qui ajoute païens, mais c'est ça que ça veut dire. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, sur le cours de ce monde, sur le prince, etc. Bon, nous aussi, juifs, nous étions de leur nombre. Hein, nous conduisions aussi, selon nos convertis charnels, etc. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a rendu à la vie, etc. Bon. Verset 11. Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Et qui vous regardez avec mépris, ce qui est d'ailleurs parfois encore le cas chez un certain nombre de juifs, et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Écoutez, justement, la situation des païens, ce qu'elle était. Vous étiez dans ce temps-là sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, ça c'est l'état des païens. C'est pourquoi il est infiniment préférable d'être juif que d'être chrétien. Que d'être païen, je veux dire. Hein? Mais maintenant, vous les païens, hein, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux, ça veut dire des juifs et des païens, n'en a fait qu'un. En détruisant le mur de séparation. Et c'était quoi le mur de séparation? C'était justement ce qu'on appelait la haie de la Torah, Geder à Torah, en hébreu. Les prescriptions rituelles, la circoncision, le Shabbat, la Kashrout, sont là justement pour que le juif sache qu'il est différent des autres, ne se mêle pas avec les autres. Les lois de la Kashrout, à l'époque de Jésus, étaient infiniment plus rigoureuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, et faisaient en sorte que toute participation de non-juifs à un repas juif était impossible, et vice-versa. C'était le but. D'où la crise Galate, justement, avec Pierre. C'était pas possible. Et c'était le but. Il y avait... Ces règles introduisaient une séparation nette entre juifs et païens, pour que le peuple d'Israël garde sa pureté. C'est ça, le but. Et voilà, justement. L'œuvre de Jésus à la croix détruit cela. Le mur de séparation, c'est aussi le mur du temple dont on parlait tout à l'heure, avec cette fameuse interdiction de s'approcher du sanctuaire. Donc c'était de s'approcher de Dieu. Le païen ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Dans sa chair, Jésus, donc, il a annulé la Torah dans ses commandements et leurs dispositions, dont les dispositions vous étaient contraires, dira l'apôtre Paul dans un autre texte, pour créer dans sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous les deux, et les unir dans un seul corps. C'est ça l'Église. Dans l'Église, justement. Juifs et païens, qui étaient autrefois dans une situation d'hostilité, d'opposition, sont maintenant réconciliés, sont en paix. Ils sont frères. C'est ça le grand miracle. Il a fait mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin, à vous qui étiez proches, car en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons le même accès. cet accès qui était interdit par ce mur de séparation dont on parlait tout à l'heure est devenu possible. Alors, conclusion, vous n'êtes donc plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, ça veut dire justement d'Israël, membres de la famille de Dieu, et Paul dira aux Galates, fils d'Abraham, comme les Juifs. Parce que votre cœur est circoncis, vous devenez fils d'Abraham, comme ça avait été promis. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre d'angle, en lui l'édifice bien coordonné, etc., etc. Après ça, Paul rend grâce à Dieu en disant que ce mystère, le mystère de l'Église, c'est quoi ? Ce mystère qui est nouveau, qui n'avait pas été révélé aux fils des hommes jusque maintenant, est révélé simplement par l'Esprit aux saints prophètes et apôtres de Christ. Les païens ont un même héritage, verset 5. Ils forment un même corps. Ils participent à la même promesse par l'Évangile dont je suis devenu serviteur. Moi qui suis le moindre des saints, cette grâce a été de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, créateur de toutes choses. Bon, etc. Voilà. Voilà. Donc c'est ça le combat de Paul. Revenir sous la Torah pour un païen, ça veut dire se faire juif. Penser qu'il soit indispensable d'être juif pour être sauvé, c'est ça le problème. C'est ça que Paul a combattu. Et être sous la loi, c'est une autre manière de dire être juif, se faire juif. Alors vous comprenez que ça change complètement la perspective. Ça n'a rien à voir avec justement, bien sûr, toute la loi morale, ça la plupart des chrétiens en conviennent. Mais même aussi, est-ce que ça implique, à ce moment-là, que le juif n'ait plus à pratiquer ces choses-là ? Nous avons vu que non. Est-ce que ça implique que l'homme cesse d'être un homme ? Est-ce que ça implique que l'homme libre cesse d'être un homme libre pour devenir esclave ? Non. Non. Et Paul dira, « Es-tu circoncis ? Ne fais pas disparaître ta circoncision. » Ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on demande finalement à un juif qui se convertit. Fais disparaître ta circoncision. Peut-être pas au point de vue, comment dirais-je, physique, mais dans les faits. Des conséquences de ta circoncision. On est ? Bon, ça, on aura l'occasion de le revoir plus tard. Mais je crois que ça, c'est le point essentiel. Ça, il faut qu'on le situe bien, justement, pour être tout à fait au clair par rapport à cette question, justement, de ce qu'on appelle l'antinominalisme de Paul. Bien, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
Donc, la vision juive jusqu'à aujourd'hui, ici du pharisaïsme, ça serait une forme de pélagianisme ?
Oui. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Ça, c'est aussi à ce à quoi Paul s'en prend souvent, hein. Notamment dans le Romain, on l'a vu. C'est ce qu'il avait professé lui-même avant sa rencontre avec le Seigneur. Bon, disons, pour être tout à fait vrai, qu'à l'époque de Paul, tous les Juifs ne partageaient pas cette vision. À Qumran, par exemple, ce n'était pas le cas. Mais même de chez certains pharisiens, chez les chassidim non plus. C'était spécifiquement pharisien d'une certaine tendance. Bon, mais dans la mesure où justement le judaïsme moderne, c'est le judaïsme pharisien, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est ça aujourd'hui dans le...